الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة. Donc nous poursuivons notre série d'interventions. Donc comme vous le savez, donc le jeudi, donc ça concerne les secrets autour des actes d'adoration. Et donc la semaine dernière, nous avions traité donc les secrets du jeûne. Et donc à présent, nous allons traiter les secrets de l'invocation et de son exaucement. Avant de rentrer dans le sujet de l'invocation et de son exaucement, je fais un petit lien, un lien intermédiaire entre le sujet de la semaine dernière et le sujet d'aujourd'hui, inshallah ta'ala. Donc on avait parlé des secrets du jeûne, et donc on avait cité les différents mérites concernant le jeûne, l'importance de pratiquer son jeûne de manière spirituelle. Et j'en profite à l'occasion ici, avant de démarrer sur la partie des invocations, de citer une parole de Ibn Qudama rahmatullah alayh, qui décrit la situation du jeûneur. Donc ça va nous permettre d'arriver sur les invocations de Inch'Allah ta'ala. Il nous décrit les jeûneurs en trois catégories. Donc les jeûneurs sont de trois catégories. Donc lorsqu'on jeûne, on est dans l'une de ces trois catégories, en espérant être dans la meilleure des catégories, Inch'Allah ta'ala. La première catégorie, Ibn Qudama rahmatullah alayh, la nomme comme étant donc Sawmul Umum, les jeûneurs de la masse, ou le jeûne de la masse, ceux qui pratiquent un jeûne de la masse. Une deuxième catégorie qu'il appelle Sawmul Khusus, donc ce sont des jeûneurs qui vont pratiquer un jeûne qui est réservé à une certaine élite. Ensuite, il va citer une troisième catégorie Afwan, qui est Sawmul Khusus il Khusus, donc là, le jeûne pratiqué par la crème des crèmes, vraiment les jeûneurs. La haute fréquence, masha'Allah. Ces jeûneurs-là, ils sont très très hauts. Et donc, il nous distingue ces trois catégories-là en nous décrivant la première catégorie, qui est Sawmul Umum, les jeûneurs de la masse. J'ai envie de dire, c'est peut-être un jeûne qui est pratiqué par beaucoup de monde. C'est le fait que le jeûneur se dispense uniquement de manger, de boire et d'avoir des rapports, uniquement. Le péché, il continue à le pratiquer de manière quotidienne. Donc pour lui, la seule différence, c'est la faim et la soif. Donc ça, c'est une première catégorie, Sawmu al-Umum. L'autre catégorie, et masha'Allah, ils sont bien placés, donc c'est Sawmu al-Khusus, ce sont ceux qui font un jeûne, effectivement matériel, au niveau de la nourriture, de la boisson et des rapports, mais également ils font un jeûne au niveau des membres. Les yeux n'observent plus le haram. La bouche ne dit plus du haram également. La personne ne se déplace plus dans les endroits de haram. Donc tout son corps également est en état de jeûne. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Donc, mashallah, déjà, là, il y a du niveau. Et la troisième catégorie, Sawm Khusus il Khusus, donc là, les jeûneurs qui ont atteint un degré très très haut, et c'est là où on va arriver, inshallah ta'ala, sur la partie de l'invocation, c'est que, effectivement, comme la première catégorie, donc ils se dispensent de manger, de boire, et également d'avoir des rapports, ils préservent également tous les membres de leur corps, autant la vue, les mauvaises paroles, tout ça est préservé, la personne ne se rend plus dans les endroits interdits, etc. Mais également, son cœur jeûne également. C'est-à-dire que son cœur n'est plus pris par les soucis de la vie d'ici-bas. Son jeûne, l'a mis dans un état spirituel au point où même son corps et son cœur sont en constante relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, j'ai introduit le sujet donc sur l'invocation. C'est-à-dire que ce type de jeûneur, Sawm Khusus il Khusus, a atteint un stade où il est constamment dans l'invocation. Constamment dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur est en train de jeûner également. Il s'est abstenu de mettre des choses de la vie d'ici-bas dans son cœur. Et donc il est constamment en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, ce qui nous amène à parler du sujet de l'invocation. Et en réalité, le sujet de l'invocation, c'est un sujet Subhanallah, si Dieu nous donne l'occasion, inshallah ta'ala, d'avoir une longue vie et de pouvoir traiter ce sujet, inshallah ta'ala, ici même, pourquoi pas. C'est un sujet qui est très très long, la vocation, en réalité, subhanallah. C'est un sujet qui demande vraiment... Il y a beaucoup de choses à connaître sur la vocation. Et subhanallah, plus on apprend sur la vocation, et plus on s'aperçoit qu'on ne connaît pas grand-chose, subhanallah. Et plus on apprend sur la vocation, et plus on s'étonne de moins en moins pourquoi nos vocations ne sont pas exaucées. Subhanallah. Plus on apprend sur la vocation, et plus on s'aperçoit qu'on est absurde dans notre manière de fonctionner, dans notre relation vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Plus on apprend dans la vocation, et plus on s'aperçoit qu'effectivement on n'est pas à la hauteur de ce que devrait être un vrai serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, yani en guise d'introduction très rapide, donc la vocation, c'est une adoration. La vocation, c'est une adoration. C'est une adoration, en fin de compte, qui nous suit tout le temps, au quotidien. Tout le temps. C'est-à-dire que, autant dans les actes d'adoration, dans le jeûne, alhamdoulilah, durant nos journées de jeûne, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos prières, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous faisons une aumône, nous demandons effectivement, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala d'être récompensés par rapport à cette aumône. Pour les personnes qui font l'umra al-hajj, donc dans tous les actes d'adoration, la vocation est présente. La vocation est transversale par rapport à tous les actes d'adoration. Mais également au quotidien, quand on mange, quand on sort de chez soi, quand on monte dans sa voiture, quand on se rend à la mosquée en marchant, dans toutes les situations de la vie, la vocation est présente. Dans toutes les situations de la vie, la vocation est présente. Et c'est ce qui a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire que la vocation, c'est l'adoration, par excellence. Ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada. C'est-à-dire que l'invocation, c'est l'adoration par excellence. C'est-à-dire que celui qui fait un acte d'adoration vide d'invocation, il manque énormément. Son adoration baisse beaucoup de mérite. Il y a du mérite en moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que, en termes de mérite, la personne a vidé l'acte d'adoration de sa substance. Donc l'invocation, c'est vraiment l'esprit de l'acte d'adoration. C'est vraiment son esprit. Et ici, il y a un verset qui nous parle également et qui devrait nous mettre en garde contre le fait de ne pas invoquer. Donc ceux qui n'invoquent pas, qui oublient d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala ou qui n'y pensent pas. Donc il y a un verset effectivement ici où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et votre Seigneur vous ordonne de l'invoquer et il vous répondra. Votre Seigneur vous ordonne de l'invoquer et il vous répondra. Ici, les savants nous disent que وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اُدْعُونِي. Il y a eu deux explications sur ce terme-là, اُدْعُونِي. اُدْعُونِي, nous on le comprend comme étant invoqué. Ici, les savants nous disent qu'effectivement, c'est même le premier sens, c'est l'adoration. اُعْبُدُونِي. اُعْبُدُونِي. Comment on peut comprendre ça? C'est la suite du verset. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Ceux qui s'enorgueillissent en ne pratiquant pas l'adoration, ce type d'individu-là, ces personnes-là, vont être dirigées et envoyées vers l'enfer éternellement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on comprend quoi de ce verset, tout simplement? On comprend que la personne qui n'adore pas son Seigneur, peut être épris d'orgueil très facilement, mais également la personne qui n'invoque pas. Si on prend le deuxième sens du verset, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. C'est-à-dire que la personne qui n'invoque pas son Seigneur peut s'expose à l'orgueil. S'expose à l'orgueil de manière générale. Et ça risque bien sûr d'affecter ses actes d'adoration également. Pas uniquement, yani à la parole. Les savants nous disent également que, par rapport à ce verset, il y a deux types d'invocations. Yani الدُعَى نَوْعَان. Dua ou Al-Mas'ala et Dua Ibada. Donc ici, il y a deux types d'invocations. Donc notamment par rapport à ce verset-là, les savants tirent deux types d'invocations. Le premier type d'invocation, c'est ce qu'on va appeler Dua ou Ibada. C'est-à-dire que ce sont les invocations qu'on va prononcer de manière générale dans nos prières ou en marchant. Ça peut être le Tasbih, le Tahlil, le Takbir. Et ici, le prophète sallam nous donne la meilleure formule concernant la Dua ou Ibada. Il nous dit: la meilleure formule, effectivement, c'est « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, لَهُ الْمُلْكُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. C'est la meilleure formule concernant du'a ou ibada. C'est la meilleure formule qu'on peut dire. Ça, c'est concernant du'a ou ibada. Ensuite, il y a du'a ou mas'ala. Du'a ou mas'ala. Du'a ou mas'ala, c'est le fait d'invoquer pour demander quelque chose. Demander quelque chose. Donc, je demande, inshallah ta'ala, bien sûr, je demande concernant mes projets de mariage, mes projets d'études, mes projets immobiliers, mes projets de vie, mes enfants, l'éducation des enfants, la bonne santé, la paix intérieure, tout ça, je demande à Allah SWT. Le pardon des péchés. Donc je demande à Allah SWT des choses. Donc ça, c'est du'a ou mas'ala. Et donc ici, on va y revenir tout à l'heure, inshallah ta'ala. Donc ce qu'il y avait à comprendre ici, dans un premier temps, c'est que l'invocation, le serviteur ne peut pas se soumettre à de l'invocation. Il doit absolument invoquer constamment son Seigneur, constamment, au risque d'être exposé à l'orgueil et au sentiment de puissance. Ensuite, l'autre élément qui est important dans l'invocation, et subhanallah, quand on voit ça, on se dit en fin de compte qu'on ne devrait plus arrêter d'invoquer. Quand on va énoncer ces différents points, on ne devrait plus arrêter d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation t'élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation t'élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation également te fait mentionner ton nom auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et en Allah subhanahu wa ta'ala également. Vous allez comprendre par rapport au hadith que je vais citer là maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne en lui-même, comme il le dira dans le hadith Qudsi. C'est-à-dire que le fait que tu invoques régulièrement Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais partie de ces gens qui sont mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et être mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose. C'est quelque chose, subhanallah. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te nomme et te nomme dans son assemblée, c'est quelque chose, yani, que même en dépensant toute la richesse qu'on aurait sur terre, on ne pourrait pas atteindre ce stade-là, subhanallah. Et l'invocation te le permet, ça. L'invocation te permet d'atteindre ce stade-là, subhanallah. Et ici, effectivement, il y a le fameux hadith Qudsi. Donc je rappelle que le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas cité dans le Coran. J'en profite, petite parenthèse, une petite faïda qui peut être intéressante. Donc le hadith Qudsi, à la différence de la parole d'Allah SWT dans le Coran, c'est que la parole d'Allah SWT dans le Coran, yani, est à 100% fiable. Dans le Coran, la parole d'Allah SWT est 100% fiable. Alors que la parole Qudsi, la parole divine dans le hadith, c'est-à-dire que c'est la parole que le Prophète SAW a rapportée d'Allah SWT, mais qui n'est pas dans le Coran, cette parole-là, le hadith Qudsi Afwan, la langue elle commence un petit peu à être asséchée un petit peu, donc la parole divine qui n'est pas dans le Coran, cette parole-là est soumise aux mêmes règles que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le hadith peut être fiable, il peut être moins fiable, il peut être authentique, etc. Le hadith Qudsi entre dans la même règle, à la différence du Coran qui est 100% fiable, 100% authentique. Donc ici, la parole Qudsi dans laquelle le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Yaqulullahu ta'ala Ana inda dhanni abdi bi » Donc je suis selon ce que mon serviteur pense de moi. Je suis auprès de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi. Et ici, cette partie-là, elle est importante. C'est que le serviteur doit tout le temps avoir une bonne opinion d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand bien même son invocation n'est pas tout de suite exaucée. Où il pense qu'elle n'est pas exaucée. Comme on verra, l'invocation peut être exaucée sans même que le serviteur s'en aperçoive. Son invocation est exaucée, subhanallah. On va l'expliquer tout à l'heure, mais c'est pas ce qu'il lui pensait. Il y a eu mieux, mais il le sait pas encore. Donc, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Donc là, tout de suite, subhanallah. Lorsque j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala, yani, Allah subhanahu wa ta'ala est avec moi. Alors ici, bien sûr, je vais pas rentrer dans la précision. Ce serait un cours de aqida et là ce serait un autre sujet, d'accord? Al-ma'iyatullah, donc l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des sept cieux, établi sur son trône, mais il est également avec les serviteurs. Donc ici, nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous ne rentrons pas dans le comment, du comment c'est possible, effectivement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est omniprésent, il est capable de tout. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Wa ana ma'ahu idha dhakarani » et je suis avec lui, lorsqu'il m'invoque. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. Là, c'est extraordinaire, subhanallah. S'il me mentionne en sa propre personne, s'il m'invoque, alors je le mentionne en ma propre personne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. فَإِنْ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ. Et s'il me mentionne, il m'invoque dans une assemblée, à ce moment-là, je l'invoque, je le mentionne auprès d'une assemblée meilleure que leur assemblée. Et vous le savez très très bien que les assemblées d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont rien à voir avec nos assemblées. On parle d'anges ici, on parle des anges. Et lorsqu'on médite légèrement en surface sur la créature que sont les anges, yani on est très très vite dépassé. Lorsqu'on médite juste sur les hadiths dans lesquels le prophète sallam décrit l'ange Jibril mathalan, les 600 ailes, chaque aile d'une couleur différente, ou lorsqu'il nous décrit la grandeur des anges, yani leur force, la hauteur qu'ils peuvent avoir. Donc lorsqu'on observe un petit peu, il y a effectivement la créature des anges, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, yani dhakartuhu fi mala'in khayrin minhum, à ce moment-là, subhanallah, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour le serviteur. Et ceci est possible uniquement, ou en tout cas à travers l'invocation. Ceci est possible à travers l'invocation. Ensuite, il nous dit, et là c'est extraordinaire également, wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je m'approche de lui, yani d'une coudée. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Et s'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Wa in atani yamshi ataytuhu harwala. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui d'une manière beaucoup plus rapide. Donc ici, subhanallah, ce qui est extraordinaire à comprendre de ce hadith, c'est que l'effet de l'invocation, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, voilà l'effet que ça fait. C'est-à-dire que tu es mentionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es mentionné premièrement par Allah subhanahu wa ta'ala, tu es mentionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta foi l'augmente. J'ai envie de dire, ceux d'entre nous, et moi le premier, qui se plaignons du manque de foi, la foi elle baisse, elle monte, etc. Des fois on est fatigué, des fois c'est vrai, on ne va pas se cacher. Des fois on est fatigué. Eh bien, réfugions-nous auprès de l'invocation, à travers l'invocation. L'invocation va t'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe qui tu es, peu importe qu'est-ce que tu es fait, etc. Plonge-toi dans l'invocation, et subhanallah, tu verras, yani, la douceur de la foi. La foi va augmenter. Subhanallah, il se passera des choses dans ta vie, yani ajib. Tu seras plus assidu aux prières. Tu vas te rapprocher des gens pieux. Là, il y aura de la baraka dans ta vie. Moins de problèmes. Juste pour quelle raison? Tu augmentes le nombre d'invocations. Tu invoques Allah Ta'ala régulièrement. Alors ici, une chose à préciser quand même importante, c'est que l'invocation, à elle seule, n'est pas suffisante. Il faut invoquer et aussi agir. Ad-du'a wa al-amal kadhalik. C'est-à-dire que les actes, les invocations, vont suivre les actes également. Plutôt l'invocation, et ensuite il y a les actes. On ne peut pas se contenter uniquement d'invoquer en se plaignant de ne pas être exaucé, alors que les actes ne suivent pas derrière. Donc effectivement, ici c'est important de lier la parole aux actes. J'invoque, je demande à Allah, mais derrière, il faut absolument que le serviteur il fasse l'amal salih, et on verra que c'est un des moyens d'avoir l'exaucement des invocations. Celui qui est plongé dans les péchés, il peut invoquer, inshallah ta'ala. Il a la bonne intention. Il va faire un effort. Allah va faire le double d'effort pour lui, comme on l'expliquait dans le hadith. Mais celui qui ne fait aucun effort, hadahu al-mushkil. Le problème, il est là. Celui qui invoque, mais ne fait aucun sabab, le problème, il est là. La personne restera tout le temps en point mort. Ensuite, l'autre élément concernant l'invocation, c'est que l'invocation, subhanallah, c'est un refuge pour celui qui désespère. Celui qui désespère de sa situation. Ça peut arriver, il y en a qui désespèrent de leur situation. Ils ont un passé tellement difficile qu'ils désespèrent de leur situation. La quantité de péchés, de petits péchés, de grands péchés, de crimes peut-être. Donc la personne peut désespérer. Se dire comment je peux effacer tout ça et repartir à nouveau, subhanallah, sur une nouvelle vie, un nouveau départ. L'invocation, subhanallah. L'invocation sincère. Et ici, subhanallah, le hadith, il est extraordinaire que je vous citais là maintenant. Et quand on lit ça, on se dit la personne, peu importe qui tu es, subhanallah, yani, invoque Allah subhanahu wa ta'ala et persiste dans l'invocation. Et sois régulier dans l'invocation. Ta vie, elle va changer. Ta vie, elle va changer et ce qui s'est passé avant sera effacé. Et ici, on a plein d'exemples. Hein. On a plein d'exemples, yani, de célébrités qu'on connaît, etc., qu'on entend dans les médias, etc., qui, subhanallah, du jour au lendemain, décident de changer complètement. Des chanteurs, des chanteuses, etc., qui ont gagné des millions d'euros, pour peut-être pas dire des milliards, peut-être. Ils avaient la gloire, ils avaient tout, mais ils étaient tristes au fond d'eux-mêmes. Subhanallah, le virement dans leur vie a fait qu'ils ont découvert la foi, et subhanallah, leur passé ne les a pas empêchés de repartir sur un nouveau départ. Le passé, le lourd passé qu'ils avaient, ne les a pas empêchés de partir sur un nouveau départ. Et l'invocation, quand on les observe, le visage illuminé qu'ils ont, ces personnes-là, subhanallah, c'est extraordinaire. Ajib. Petite parenthèse rapide, il y avait un chanteur, il y en a peut-être que certains le connaissent, de mémoire il s'appelait Loun, chanteur Loun des années 2000, hein, années 2000, fin 90, Allah alam, chanteur Loun, qui s'était converti, subhanallah, en 2009, c'était une période où je partais à la Umrah, alhamdoulilah, et j'avais entendu la conversion d'un chanteur qui s'appelait Loun, un chanteur américain, très très connu, subhanallah. Ce chanteur, yani, comme tous les chanteurs américains, c'était la catastrophe. Les clips, etc., la catastrophe. L'argent, etc., les femmes et tout. Et subhanallah, ce chanteur-là, extraordinaire, subhanallah. Il est parti dans un séjour en Égypte et pour un concert. Et il est parti là-bas, subhanallah, et dans la nuit, il était réveillé. Il était réveillé par l'adhan. L'adhan, subhanallah, l'a réveillé. Il n'a pas compris. Il n'y a pas d'adhan aux États-Unis, il n'y a pas d'adhan en Europe, il n'y a pas d'adhan dans les pays occidentaux. Donc il ne comprenait pas ce qui se passe. Dans la nuit, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Son équipe de tournage, qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit dans la rue, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et il voit des personnes en qamis qui marchent dans la rue, subhanallah. Mais en masse, on est dans un pays musulman. Il y a du monde à Al-Fajr. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont où ces gens? Il y a une braderie, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Et là, à ce moment-là, on lui explique. L'adhan, c'est l'appel à la prière. Et ça, c'est des musulmans. Et dans la nuit, ils fracassent leur sommeil. Ils fracassent leur sommeil pour aller prier leur Seigneur. Et là, subhanallah, il y a eu un déclic dans sa tête. Il dit, subhanallah, c'est des gens, ils font un sacrifice que même moi, je ne serais même pas capable de faire. Pour aller travailler, ou pour gagner de l'argent, ou pour la célébrité. Ils font ça pour leur Seigneur. Et tous les jours, c'est pas une fois dans la semaine, le dimanche matin ou là. Et tous les jours, ils fracassent leur sommeil. Toutes les nuits, ils fracassent leur sommeil. Et ils vont. Subhanallah. Et donc, il s'est converti suite à ça. Suite à cet événement, il s'est converti. Et c'est quelqu'un, subhanallah, il y en a pour les peu de fois où j'ai pu le voir intervenir, il est plongé dans l'invocation. Il demande des invocations. Quelqu'un fait une invocation, subhanallah, c'est comme si on lui avait donné de l'argent, subhanallah. Il te donne des centaines d'euros. Non, garde, fais-moi juste une invocation. Ajib, le rapport qu'il a à l'invocation, c'est extraordinaire, subhanallah. Et donc ici, la dua, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ou plutôt le hadith Qudsi, donc un deuxième hadith Qudsi ici, nous dit « Yabn Adam ». Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au fils d'Adam. « Innaka ma da'outani wa rajoutani ghafartu laka ala ma kana fik wa la ubali ». Donc ici, le hadith, il nous dit quoi? Il nous dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi le pardon, je te pardonnerai. Tant qu'il y a l'espoir, il y a l'espoir et tu m'invoques, je te pardonnerai automatiquement. Subhanallah. Juste cette première partie-là, normalement, elle devrait nous faire frémir, subhanallah. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas mort, là, tu peux demander le pardon, subhanallah. Quel individu que ce soit, tant que tu n'es pas mort, tant que l'âme n'est pas arrivée au gosier, tu demandes pardon sincèrement et tu espères le pardon, Allah te pardonne. Ajib, la miséricorde immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne. Quoi que tu aies fait, sans m'en soucier, quoi que tu aies fait, wala ubali, sans m'en soucier. Ensuite, il nous dit, Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anan as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Il nous dit, ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le firmament, c'est-à-dire le point le plus éloigné dans le ciel, puis que tu implorais mon pardon, je te pardonnerai. Donc, subhanallah, même si tes péchés atteignent yani, des montagnes et des montagnes jusqu'à atteindre le ciel, et une distance très très loin dans le ciel, pardonne les péchés, subhanallah. Il te pardonne les péchés. Ensuite, il continue en nous disant, Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibn Adam, innaka law ataytani biqurabil ardi khataya thumma laqaytani la tushriku bi shay'a la ataytuka biqurabiha maghfira. Allahu akbar. Allahu akbar, le hadith qudsi ici. Il nous dit, si tu venais à moi avec autant de péchés que peut en contenir la terre, subhanallah, autant de péchés que peut en contenir la terre, puis que tu me rencontrerais sans m'associer que ce soit, quelque associé que ce soit, tu ne m'associes rien du tout. Tu me demandes exclusivement à moi et tu m'adores exclusivement moi, je viendrai certes à toi avec autant de pardon que la terre peut contenir. Et ici, on comprend à travers ce hadith que le seul péché qui n'est pas pardonné, c'est l'associationnisme, le shirk. Et comme nous le dit Allah dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Allah ta'ala yani ne pardonne pas l'associationnisme, mais il peut pardonner ce qui est en deçà, yani parmi les petits péchés et parmi les grands péchés. Le seul péché qu'il ne pardonne pas, c'est l'associationnisme. Donc ici, quand on voit ça, on ne peut que avoir la bonne opinion d'Allah ta'ala. On ne peut que avoir la bonne opinion d'Allah ta'ala. On ne peut pas penser que mon invocation n'a pas été exaucée, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. C'est toi le fautif. Ton invocation n'est pas exaucée, tu as demandé quelque chose, ce n'est pas encore venu. C'est toi le fautif. Alors, soit c'est toi le fautif, soit patiente. Ça va venir. C'est comme on le verra, yani celui qui met de côté tous les obstacles à l'invocation, parce qu'il y a des obstacles dans l'invocation, subhanallah. Il y a des choses qui font que ton invocation n'est pas validée. On en parlera, inchallah, si on a le temps. Donc, il y a des choses qui font que ton invocation n'est pas validée. Mais si tu as pris tes précautions, t'es quelqu'un, subhanallah, qui a pris ses précautions et que ton invocation n'est toujours pas exaucée, c'est qu'en fin de compte, elle est exaucée. Mais pas comme toi tu le souhaites. Et on le verra, inshallah ta'ala. Ici, l'autre enseignement concernant l'invocation, et ici, ça devrait tous nous faire réfléchir et surtout nous mettre en garde contre ceux qui n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ne pensent pas, qui ne font pas l'invocation de manière régulière. Quand je dis l'invocation, c'est le fait d'invoquer, comme on a dit, du'a ou mas'ala, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais également les du'a au quotidien. Du'a ou ibadah, comme on a dit. Yani, adhkaru al-sabah, mathalan. Adhkaru al-masa. Al-adhkar. Qabla al-akl. Ba'da al-akl. Inda al-khuruj, inda al-dukhul. Donc en sortant, en mangeant, etc. Toutes ces invocations-là, on est dans le besoin. Parce qu'une invocation, c'est ça. La vocation, c'est que le serviteur, il est constamment et dans la permanence dans le besoin par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dans le besoin extrême. Nous sommes des indigents, nous sommes des pauvres par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara'a ila Allah. Antumul fuqara'a ila Allah. C'est vous les indigents, c'est vous les pauvres par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, concrètement, la vocation nous rappelle que nous sommes faibles. L'invocation nous rappelle que nous sommes faibles et que nous dépendons totalement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khuliqa al-insanu da'ifa, l'homme a été créé très très faible, très très faible. À tel point qu'il est faible, c'est qu'il n'est même pas capable de se défendre contre un virus qui est beaucoup plus petit que lui et qui n'est même pas visible à l'œil nu. Zid à Sidi, défends-toi contre le virus. On ne peut pas. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se défendre contre ce virus. Donc concrètement, l'individu, yani, il n'est pas capable de se défendre contre ce virus-là et il ne veut pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, كيف يحكم هذا الإنسان؟ Comment cet individu réfléchit? Celui qui n'invoque pas, bien sûr. Donc ici, le grand danger qui touche et dont s'expose la personne qui n'invoque pas, c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre la personne qui n'invoque pas, Allah subhanahu wa ta'ala apprécie et aime la personne qui l'invoque. La personne qui n'invoque pas, Allah subhanahu wa ta'ala s'expose à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, yani, bénéficie de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, un hadith qui est assez clair, qui nous dit « Man lam yas'alillah, yardib alayh » Celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre lui. Et ici, les savants nous disent, Ibn al-Qayyim par exemple, nous dit que la colère engendre la malédiction et le châtiment. Comme la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala engendre la bonne action, l'alhamdoulilah, le bonheur et la paix, et la récompense. Donc ici, lorsque la personne n'invoque pas, ben déjà, il y a déjà l'enclenchement d'une mauvaise chose, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ça continue, la personne ben, risque la malédiction et le châtiment par la suite. Donc la personne qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala est sur une pente descendante, automatiquement. Alors ici, alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre la personne qui n'invoque pas? On pourrait se poser la question, pourquoi? Et comme on l'a expliqué précédemment, la personne qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, ben, se prend pour qui? Qui tu es pour ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Qui es-tu, individu, qui a été créé d'une goutte d'eau et qui va finir par être un cadavre? Et entre les deux, comme disait Hassan al-Basri, et entre les deux, tu es un porteur d'excréments. On a résumé la vie de l'individu. Une goutte d'eau au départ, un cadavre à la fin, et entre les deux, subhanallah, quelqu'un qui porte des excréments. Ajalakumullah. Donc ici, concrètement, l'individu n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il se prend pour quelqu'un qui est suffisant. Il s'enorgueillit. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère par rapport à ça. Par rapport à ce sentiment d'orgueil et de suffisance, de puissance. L'individu est pauvre. Le serviteur est pauvre face à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'individu doit comprendre, le serviteur comprend à travers l'invocation, il comprend qu'il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, subhanallah, donc, les poètes, hein, bien sûr, mashallah, font des rimes magnifiques quand ils font de la poésie. Et mashallah, ils décrivent très très bien des fois l'absurdité qu'il peut y avoir dans l'esprit de l'être humain. Et ici, il y a une parole d'un poète qui décrit en particulier l'absurdité de celui qui n'invoque pas. Il nous dit, le poète, « La tas'alanna bunayya adama hajatan » وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. Ici, subhanallah, les vers de poésie sont assez bien rimés, mais le sens il est poignant, le sens. Le sens, il nous dit, et n'invoque pas le fils d'Adam pour t'aider dans une affaire particulière. En tout cas, ne commence pas par invoquer ou par demander aide au fils d'Adam. Il nous dit, mais invoque plutôt celui dont les portes ne se ferment jamais. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il continue ici, en nous disant, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère lorsque tu délaisses l'invocation. Allahu yardabu in tarakta su'alahu. Allah subhanahu wa ta'ala est en colère, comme on l'a vu dans le hadith, lorsque tu délaisses l'invocation. Et le fils d'Adam est en colère lorsque tu le sollicites pour lui demander une aide. Subhanallah. Et ici, on pourrait dire, mais l'absurdité de l'être humain, elle est la chose suivante. C'est que on va délaisser celui qui aime qu'on le sollicite et qui est capable de tout pour aller se diriger vers celui qui déteste qu'on le sollicite et qui est capable de rien. Par Allah. l'absurdité de l'être humain, subhanallah. L'absurdité. Ensuite, toujours par rapport à la vocation, et on s'arrêtera là-dessus, inshallah ta'ala, le fait que la vocation, elle est le remède contre tous les maux. Les maux passés, présents, et même les maux futurs. Quand je dis les maux, M-A-U-X. Donc les difficultés, les calamités, les malheurs qui se sont passés, qui se présentent encore et qui vont se présenter. L'invocation, lorsque tu es touché par une difficulté, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Par une maladie, par un décès, par un accident, l'ahfad, sur la santé, ta propre santé, la santé de tes enfants, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur toi la patience. La patience, la tranquillité et la résistance par rapport à cette épreuve. Dans l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala te donne la capacité de résister. Et même l'épreuve qui n'est pas encore venue, l'invocation, yani l'expulse ou la pulvérise. Alors ici, je ne vais pas rentrer dans le point là maintenant parce que ça va s'arrêter, inshallah ta'ala. Mais l'invocation, subhanallah, yani enlève la calamité qui aurait pu te toucher. Le décret, Allah ta'ala, yani, a mis des décrets dans chacun des serviteurs. Sa vie est rythmée par des décrets divins. Yani al-qadar, donc al-qada. Donc ici, les décrets divins rythment la vie des serviteurs. Subhanallah, lorsque tu invoques, ça peut être une cause pour que Allah ta'ala t'enlève un mal qui allait t'arriver. Un accident, une maladie, juste par le fait que tu es invoqué. Alors, subhanallah, et on s'arrêtera là-dessus, je pose juste une question. Si quelqu'un nous annonçait qu'il allait nous arriver un malheur, on te dit, écoute, il va t'arriver un malheur. Je te le dis. Tu me donnes combien pour que je t'évite ce malheur? Un accident, une blessure, une jambe en moins, la fois dans un accident. Ah, ça, je donne tout l'argent que je... Comment ça? Je donne tout ce que je peux donner. Eh bien, subhanallah, l'invocation te permet de justement enlever ce malheur qui pourrait t'arriver. Quand on entend ça, en fin de compte, et comme on le verra, comme disait Omar ibn Khattab, le plus important, c'est pas de savoir si une invocation est exaucée, c'est de savoir si tu as invoqué. Il faut invoquer dans toutes circonstances. L'exaucement viendra par la suite, inshallah ta'ala, de quelque forme que ce soit. Parmi les formes de l'exaucement, c'est qu'Allah ta'ala t'enlève un malheur. Et quand on voit ça, ben on se dit on doit passer notre vie et 24 sur 24 de manière constante à invoquer pour être préservé contre tout malheur en fin de compte. On va s'arrêter là-dessus, inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم